Deuxième partie, chapitre 1. Il était 4 heures. Le jour se levait à peine. Un jour rose des premiers matins de mai. Sous le ciel pâlissant, les bâtiments de la Borderie sommeillaient encore, à demi sombre. 3 longs bâtiments aux 3 bords de la vaste cour carrée. La bergerie au fond, les granges à droite, la vacherie, l'écurie et la maison d'habitation à gauche. Fermant le 4e côté, la porte charretière était close, verrouillée d'une barre de fer. Et, sur la fosse à fumier, seul un grand coq jaune sonnait le réveil, de sa note éclatante de clairon. Un second coq répondit, puis un troisième. L'appel se répéta, s'éloigna de ferme en ferme, d'un bout à l'autre de la bosse. Cette nuit-là, comme presque toutes les nuits, Ourdequin était venu retrouver Jacqueline dans sa chambre, la petite chambre de servante qu'il lui avait laissée embellir d'un papier à fleurs, de rideaux de percale et de meubles d'acajou. Malgré son pouvoir grandissant, elle s'était heurtée à de violents refus chaque fois qu'elle avait tenté d'occuper avec lui la chambre de sa défunte femme, la chambre conjugale, qu'il défendait par un dernier respect. Elle en restait très blessée. Elle comprenait bien qu'elle ne serait pas la vraie maîtresse, tant qu'elle ne coucherait pas dans le vieux lit de chêne, drapé de cotonnade rouge. Au petit jour, Jacqueline s'éveilla, et elle demeurait sur le dos, les paupières grandes ouvertes, tandis que près d'elle, le fermier ronflait encore. Ses yeux noirs rêvaient dans cette chaleur excitante du lit. Un frisson gonfla sa nudité de jolie fille mince. Pourtant, elle hésitait. Puis elle se décida, enjamba doucement son maître, la chemise retroussée, si légère et si souple qu'il ne la sentit point. Et sans bruit, les mains fiévreuses de son brusque désir, elle passa un jupon. Mais elle heurta une chaise, il ouvrit les yeux à son tour. « Tiens, tu t'habilles ? Où vas-tu ? » « J'ai peur pour le pain, je vais voir. » Ourdequin se rendormit, bégayant, étonné du prétexte. La tête en sourd travail dans l'accablement du sommeil. Quelle drôle d'idée! Le pain n'avait pas besoin d'elle à cette heure. Et il se réveilla en sursaut, sous la pointe aiguë d'un soupçon. Ne la voyant plus là, étourdi, il promenait son regard vague autour de cette chambre de bonne, où étaient ses pantoufles, sa pipe, son rasoir. Encore quelques coups de chaleur de cette gueuse pour un valet! Il lui fallut 2 minutes avant de se reprendre. Il revit toute son histoire. Son père, Isidore Ourdequin, était le descendant d'une ancienne famille de paysans de Cloyes, affiné et monté à la bourgeoisie au XVIe siècle. Tous avaient eu des emplois dans la gabelle, un grainetier à Chartres, un autre contrôleur à Châteaudun, et Isidore, orphelin de bonheur, possédait une 60 000 francs lorsque, à 26 ans, privé de sa place par la Révolution, il eut l'idée de faire fortune avec les vols de ces brigands républicains qui mettaient en vente les biens nationaux. Il connaissait admirablement la contrée. Il flaira, calcula, paya 30 000 francs, à peine le 1/5 de leur valeur réelle, les 150 hectares de la Borderie, tout ce qu'il restait de l'ancien domaine des Rognes-Bouqueval. Pas un paysan n'avait osé risquer ses écus. Seuls des bourgeois, des Robins et des financiers tirèrent profit de la mesure révolutionnaire. D'ailleurs, c'était simplement une spéculation, car Isidore comptait bien ne pas s'embarrasser d'une ferme, la revendre à son prix dès la fin des troubles, quintupler ainsi son argent. Mais le directoire arriva et la dépréciation de la propriété continuait. Il ne put vendre avec le bénéfice rêvé. Sa terre le tenait et il en devint le prisonnier. À ce point que, têtu, ne voulant rien lâcher d'elle, il eut l'idée de la faire valoir lui-même, espérant y réaliser enfin la fortune. Vers cette époque, il épousa la fille d'un fermier voisin qui lui apporta 50 hectares. Dès lors, il en eut 200. Et ce fut ainsi que ce bourgeois, sorti depuis 3 siècles de la souche paysanne, retourna à la culture. Mais à la grande culture, à l'aristocratie du sol qui remplaçait l'ancienne toute-puissance féodale. Alexandre Hourdequin, son fils unique, était né en 1804. Il avait commencé d'exécrables études au collège de Châteaudun. La terre le passionnait. Il préféra revenir aider son père, décevant un nouveau rêve de ce dernier qui, devant la fortune lente, aurait voulu vendre tout et lancer son fils dans quelque profession libérale. Le jeune homme avait 27 ans lorsque, le père mort, il devint le maître de la borderie. Il était pour les méthodes nouvelles. Son premier soin, en se mariant, fut de chercher, non du bien, mais de l'argent. Car selon lui, il fallait s'en prendre au manque de capital si la ferme végétait. Et il trouva la dot désirée, une somme de 50 000 francs que lui apporta une sœur du notaire Bailleuhache, une demoiselle mûre, son aînée de 5 ans, extrêmement laide, mais douce. Alors commença entre lui et ses 200 hectares une longue lutte, d'abord prudente, peu à peu enfiévrée par les mécomptes, lutte de chaque saison, de chaque jour, qui, sans l'enrichir, lui avait permis de mener une vie large de gros hommes sanguins, décidé à ne jamais rester sur ses appétits. Depuis quelques années, les choses se gâtaient encore. Sa femme lui avait donné 2 enfants. Un garçon, qui s'était engagé par haine de la culture et qui venait d'être fait capitaine après Solferino. Une fille délicate et charmante, sa grande tendresse, l'héritière de la borderie, puisque son fils ingrat courait les aventures. D'abord, en pleine moisson, il perdit sa femme. L'automne suivant, sa fille mourait. Ce fut un coup terrible. Le capitaine ne se montrait même plus une fois par an. Le père se trouva brusquement seul, l'avenir fermé, sans l'encouragement désormais de travailler pour sa race. Mais si la blessure saignait au fond, il resta debout, violente et autoritaire. Devant les paysans qui ricanaient de ses machines, qui souhaitaient la ruine de ce bourgeois assez audacieux pour tâter de leur métier, il s'obstina. Que faire d'ailleurs? Il était de plus en plus étroitement le prisonnier de sa terre. Le travail accumulé, le capital engagé, l'enfermait chaque jour davantage, sans autre issue possible désormais que d'en sortir par un désastre. Hourdequin, carré des épaules, avec sa large face haute en couleur, n'ayant gardé que des mains petites de son affinement bourgeois, avait toujours été un mâle despotique pour ses servantes. Même du temps de sa femme, toutes étaient prises, et cela naturellement, sans autre conséquence, comme une chose due. Si les filles de paysans pauvres qui vont en couture se sauvent parfois, pas une de celles qui s'engagent dans les fermes n'évite l'homme, les valets ou le maître. Madame Hourdequin vivait encore lorsque Jacqueline entra à la borderie, par charité. Le père Cognier, un vieil ivrogne, la rouait de coups, et elle était si desséchée, si minable, qu'on lui voyait les os du corps au travers de ses guenilles. Avec ça, d'une telle laideur, croyait-on, que les gamins la huaient. On ne lui aurait pas donné 15 ans, bien qu'elle en eût alors près de 18. Elle aidait la servante, on l'employait à de basses besognes, à la vaisselle, au travail de la cour, au nettoyage des bêtes, ce qui achevait de la crotter, salie à plaisir. Pourtant, après la mort de la fermière, elle parut se décrasser un peu. Tous les valets la culbutaient dans la paille. Pas un homme ne venait à la ferme sans lui passer sur le ventre. Et, un jour qu'elle l'accompagnait à la cave, le maître, dédaigneux jusque-là, voulut aussi goûter de ce laidron mal tenu. Mais elle se défendit furieusement, l'égratigna, le mordit, si bien qu'il fut obligé de la lâcher. Dès lors, sa fortune était faite. Elle résista pendant 6 mois, se donna ensuite par petits coins de peau nue. De la cour, elle était sautée à la cuisine, servante en titre. Puis elle engagea une gamine pour l'aider. Puis, tout à fait dame, elle eut une bonne qui la servit. Maintenant, de l'ancien petit torchon, s'était dégagée une fille très brune, l'air fin et joli, qui avait la gorge dure, les membres élastiques et forts des fausses maigres. Elle se montrait d'une coquetterie dépensière, se trempait de parfums, tout en gardant un fond de malpropreté. Les gens de Rognes, les cultivateurs des environs, n'en demeuraient pas moins étonnés de l'aventure. Était-ce Dieu possible qu'un Richard se fût entiché d'une mauviette pareille, pas belle, pas grasse, de la cognette, enfin, la fille à cogner, à ce soulard qu'on voyait depuis 20 ans casser les cailloux sur les routes? Ah, un fier beau-père, une fameuse catin! Et les paysans ne comprenaient même pas que cette catin était leur vengeance, la revanche du village contre la ferme, du misérable ouvrier de la glèbe contre le bourgeois enrichi, devenu gros propriétaire. Ourdequin, dans la crise de ses 55 ans, s'acoquinait, la chair prise, ayant le besoin physique de Jacqueline, comme on a le besoin du pain et de l'eau. Quand elle voulait être bien gentille, elle l'enlaçait d'une caresse de chatte. Elle le gorgeait d'un dévergondage sans scrupule, sans dégoût, tel que les filles ne l'osent pas. Et pour une de ces heures, il s'humiliait. Il la suppliait de rester, après des querelles, des révoltes terribles de volonté, dans lesquelles il menaçait de la flanquer dehors, à grands coups de botte. La veille encore, il l'avait giflée, à la suite d'une scène qu'elle lui faisait, pour coucher dans le lit où était morte sa femme. Et toute la nuit, elle s'était refusée, lui allongeant des tapes dès qu'il s'approchait. Car si elle continuait à se donner le régal des garçons de la ferme, elle le rationnait, lui, le fouettait d'abstinence, afin d'augmenter son pouvoir. Aussi, ce matin-là, dans cette chambre moite, dans ce lit défait, où il la respirait encore, fut-il repris de colère et de désir. Depuis longtemps, il flairait ses continuelles trahisons. Il se leva d'un saut, il dit à voix haute, « Ah, bougresse, si je te pince !» Vivement, il s'habilla et descendit. Jacqueline avait filé à travers la maison muette, éclairée à peine par la pointe de l'aube. Comme elle traversait la cour, elle eut un mouvement de recul, en apercevant le berger, le vieux Soulas, déjà debout. Mais son envie la tenait si fort qu'elle passa outre. Tant pis. Elle évita l'écurie de 15 chevaux où couchaient 4 des charretiers de la ferme. Alla au fond, dans la soupente, qui servait de lit à Jean. De la paille, une couverture, pas même de drap. Et, l'embrassant tout endormi, lui fermant la bouche d'un baiser, frissonnante, essoufflée, à voix très basse, « C'est moi, grosse bête, et pas peur. Vite, vite, dépêchons !» Mais il s'effraya. Il ne voulut jamais à cette place, dans son lit, crainte d'une surprise. L'échelle du fenil était près de là. Ils grimpèrent, laissèrent la trappe ouverte, se culbutèrent au milieu du foin. « Oh, grosse bête !» répétait Jacqueline pâmée, avec son roucoulement de gorge qui semblait lui monter des flancs. Il y avait près de 2 ans que Jean Macquart se trouvait à la ferme. En sortant du service, il était tombé à Bazoches-le-Doyen avec un camarade, menuisier comme lui, et il avait repris du travail chez le père de ce dernier, petit entrepreneur de village qui occupait 2 ou 3 ouvriers. Mais il ne se sentait plus le cœur à la besogne. Les 7 années de service l'avaient rouillé, dévoyé, dégoûté de la scie et du rabot, à ce point qu'il semblait un autre homme. Jadis, à Plassans, il tapait dur sur le bois, sans facilité pour apprendre, sachant tout juste lire, écrire et compter. Très réfléchi pourtant, très laborieux, ayant la volonté de se créer une situation indépendante en dehors de sa terrible famille. Le vieux Macquart le tenait dans une dépendance de fille, lui soufflait sous le nez ses maîtresses, allait chaque samedi à la porte de son atelier, lui volait sa paix. Aussi, lorsque les coups et la fatigue eurent tué sa mère, suivit-il l'exemple de sa sœur Gervaise, qui venait de filer à Paris avec un amant. Il se sauva de son côté pour ne pas nourrir son fainéant de père. Et maintenant, il ne se reconnaissait plus. Non qu'il fût devenu paresseux à son tour, mais le régiment lui avait élargi la tête. La politique, par exemple, qui l'ennuyait autrefois, le préoccupait aujourd'hui, le faisait raisonner sur l'égalité et la fraternité. Puis, c'était des habitudes de flâne, les factions rudes et oisives, la vie somnolente des casernes, la bousculade sauvage de la guerre. Alors, les outils tombaient de ses mains. Il songeait à sa campagne d'Italie, et un grand besoin de repos l'engourdissait, l'envie de s'allonger et de s'oublier dans l'herbe. Un matin, son patron vint l'installer à la borderie pour des réparations. Il y avait un bon mois de travail, des chambres à parqueter, des portes, des fenêtres à consolider un peu partout. Lui, heureux, traîna la besogne 6 semaines. Sur ces entrefaites, son patron mourut, et le fils, qui s'était marié, alla s'établir dans le pays de sa femme. Demeuré à la borderie, où l'on découvrait toujours des bois pourris à remplacer, le menuisier y fit des journées pour son compte. Puis, comme la moisson commençait, il donna un coup de main, resta 6 semaines encore, de sorte que, le voyant si bien mordre à la culture, le fermier finit par le garder tout à fait. En moins d'un an, l'ancien ouvrier devint un bon valet de ferme, charriant, labourant, semant, fauchant, dans cette paix de la terre, où il espérait contenter enfin son besoin de calme. C'était donc fini de scier et de raboter, et il paraissait né pour les champs, avec sa lenteur sage, son amour du travail réglé, ce tempérament de bœuf de labour qu'il tenait de sa mère. Il fut ravi d'abord. Il goûta la campagne que les paysans ne voient pas. Il la goûta à travers des restes de lecture sentimentale, des idées de simplicité, de vertu, de bonheur parfait, tels qu'on les trouve dans les petits contes moraux pour les enfants. À vrai dire, une autre cause le faisait se plaire à la ferme. Au temps où il raccommodait les portes, la cognette était venue s'étaler dans ses copeaux. Ce fut elle réellement qui le débaucha, séduite par les membres forts de ce gros garçon, dont la face régulière et massive annonçait un mâle solide. Lui céda, puis recommença, craignant de passer pour un imbécile, d'ailleurs tourmenté à son tour du besoin de cette vicieuse qui savait comment on excite les hommes. Au fond, son honnêteté native protestait. C'était mal d'aller avec la bonne amie de maître Hourdequin, auquel il gardait de la reconnaissance. Sans doute il se donnait des raisons. Elle n'était pas la femme du maître. Elle lui servait de traînée. Et puisqu'elle le trompait dans tous les coins, autant valait-il en avoir le plaisir que de le laisser aux autres. Mais ses excuses n'empêchaient pas son malaise de croître, à mesure qu'il voyait le fermier s'éprendre davantage. Certainement, ça finirait par du vilain. Dans le foin, Jean et Jacqueline étouffaient leur souffle. Lorsque lui, l'oreille restée au guet, entendit craquer le bois de l'échelle. D'un bond, il fut debout, et au risque de se tuer, il se laissa tomber par le trou qui servait à jeter le fourrage. La tête de Hourdequin, justement, apparaissait de l'autre côté au ras de la trappe. Il vit du même regard l'ombre de l'homme qui fuyait et le ventre de la femme encore vautré, les jambes ouvertes. Une telle fureur le poussa qu'il n'eut pas l'idée de descendre pour reconnaître le galant et que, d'une gifle à tuer un bœuf, il jeta par terre Jacqueline, qui se relevait sur les genoux. « Ah, putain !» Elle hurla, elle nia l'évidence dans un cri de rage. « Ce n'est pas vrai !» Il se retenait de défoncer à coups de talon ce ventre qu'il avait vu, cette nudité étalée de bête en folie. « Je l'ai vu, dis que c'est vrai ou je te crève !»« Non, 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 pas vrai !» Puis, quand elle se fut enfin remise sur les pieds, la jupe rabattue, elle devint insolente, provocante, décidée à jouer sa toute-puissance. « Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça te fiche ? Est-ce que je suis ta femme ? Puisque tu ne veux pas que je couche dans ton lit, je suis bien libre de coucher où ça me plaît. » Elle eut son roucoulement de colombe, comme une moquerie lascive. « Allons, ôte-toi de là que je descende, je m'en irai ce soir. »« Tout de suite !»« Non, ce soir, attends donc de réfléchir. » Il resta frémissant, hors de lui, ne sachant sur qui faire tomber sa colère. S'il n'avait déjà plus le courage de la jeter immédiatement à la rue, avec quelle joie il aurait flanqué le galant dehors. Mais où le prendre maintenant? Il était monté droit au fenil, guidé par les portes ouvertes, sans regarder dans les lits. Et lorsqu'il fut redescendu, les 4 charretiers de l'écurie s'habillaient, ainsi que Jean, au fond de sa soupente. Lequel des cinq? Aussi bien celui-ci que celui-là. Et les cinq à la file, peut-être. Il espérait cependant que l'homme se trahirait. Il donna ses ordres pour la matinée, n'envoya personne au champ, ne sortit pas lui-même, serrant les poings, tournant dans la ferme avec des regards obliques et l'envie d'assommer quelqu'un. Après le déjeuner de 7 heures, cette revue irritée du maître fit trembler la maison. Il y avait, à la borderie, les 5 charretiers pour 5 charrues, 3 batteurs, 2 vachers ou hommes de cour, un berger et un petit porcher, en tout 12 serviteurs, sans compter la servante. D'abord, dans la cuisine, il apostropha cette dernière, parce qu'elle n'avait pas remis au plafond les pelles du four. Ensuite, il rôda dans les 2 granges, celle pour l'avoine, celle pour le blé, immense celle-ci, haute comme une église, avec des portes de 5 mètres. Et il y chercha querelle aux batteurs, dont les fléaux, disait-il, hachaient trop la paille. De là, il traversa la vacherie, en rageant de trouver les 30 vaches en bon état, l'allée centrale lavée, les auges propres. Il ne savait à quel propos tomber sur les vachers, lorsque dehors, en donnant un coup d'œil aux citernes, dont ils avaient aussi l'entretien, il s'aperçut qu'un tuyau de descente était bouché par des nids de pierrot, ainsi que dans toutes les fermes de la Beauce, on recueillait précieusement les eaux de pluie des toitures, à l'aide d'un système compliqué de gouttières. Et il demanda brutalement si l'on allait laisser les moineaux le faire crever de soif. Mais ce fut enfin sur les charretiers que l'orage éclata. Bien que les 15 chevaux de l'écurie eussent de la litière fraîche, il commença par crier que c'était dégoûtant de les abandonner dans une pourriture pareille. Puis, honteux de son injustice, exaspéré davantage, comme il visitait aux 4 coins des bâtiments les 4 hangars où l'on serrait les outils, il fut ravi de voir une charrue dont les mancherons étaient brisés. Alors il tempêta. Est-ce que ces 5 bougres s'amusaient exprès à casser son matériel? Il leur foutrait leur compte à tous les 5, oui, à tous les 5, pour ne pas faire de jaloux. Pendant qu'il les injuriait, ses yeux de flamme fouillaient leur peau, attendaient une pâleur, un frisson qui dénonça le traître. Aucun ne bougea, et il les quitta avec un grand geste désolé. En terminant son inspection par la bergerie, Ourdequin eut l'idée d'interroger le berger Soulas. Ce vieux de 65 ans était à la ferme depuis un demi-siècle, et il n'y avait rien amassé, mangé par sa femme, ivrognait ses catins, qu'il venait enfin d'avoir la joie de porter en terre. Il tremblait que son âge ne le fît congédier bientôt. Peut-être que le maître l'aiderait, mais est-ce qu'on savait si les maîtres ne mourraient pas les premiers? Est-ce qu'il donnait jamais de quoi pour le tabac et la goutte? D'ailleurs, il s'était fait une ennemie de Jacqueline, qu'il exécrait d'une haine d'ancien serviteur jaloux, révolté par la fortune rapide de cette dernière venue. Quand elle le commandait, à 7 heures, l'idée qu'il l'avait vu en guenille dans le crottin le jetait hors de lui. Elle l'aurait certainement renvoyé si elle s'en était sentie la puissance. Et cela le rendait prudent. Il voulait garder sa place. Il évitait tout conflit, bien qu'il se crût certain de l'appui du maître. La bergerie au fond de la cour occupait tout le bâtiment, une galerie de 80 mètres où les 800 moutons de la ferme n'étaient séparés que par des clés. Ici, les mères en divers groupes, là, les agneaux, plus loin, les béliers. À 2 mois, on châtrait les mâles qu'on élevait pour la vente, tandis qu'on gardait les femelles afin de renouveler le troupeau de mères, dont on vendait chaque année les plus vieilles. Et les béliers couvraient les jeunes à des époques fixes, des dichelets croisés de mérinos, superbes avec leur air stupide et doux, leur tête lourde au grand nez arrondi d'homme à passion. Quand on entrait dans la bergerie, une odeur forte suffoquait, l'exhalaison ammoniacale de la litière, de l'ancienne paille sur laquelle on remettait de la paille fraîche pendant 3 mois. Le long des murs, des crémaillères permettaient de hausser les râteliers à mesure que la couche de fumier montait. Il y avait de l'air pourtant, de larges fenêtres, et le plancher du fenil, au-dessus, était fait de madriers mobiles qu'on enlevait en partie lorsque diminuait la provision des fourrages. On disait, du reste, que cette chaleur vivante, cette couche en fermentation, molle et chaude, était nécessaire à la belle venue des moutons. Ourdequin, comme il poussait une des portes, aperçut Jacqueline qui s'échappait par une autre. Elle aussi avait songé à Soulas, inquiète, certaine d'avoir été guettée avec Jean. Mais le vieux était resté impassible, sans paraître comprendre pourquoi elle se faisait aimable, contre sa coutume. Et la vue de la jeune femme sortant de la bergerie, où elle n'allait jamais, enfiévra l'incertitude du fermier. « Eh bien, père Soulas, demanda-t-il, rien de nouveau ce matin ?» Le berger, très grand, très maigre, avec un visage long, coupé de plis, comme taillé à la serpe dans un nœud de chêne, répondit lentement. « Non, monsieur Ourdequin, rien du tout, sauf que les tondeurs arrivent et vont bientôt se mettre à la besogne. » Le maître causa un instant, pour n'avoir pas l'air de l'interroger. Les moutons qu'on nourrissait là, depuis les premières gelées de la Toussaint, allaient bientôt sortir vers le milieu de mai, dès qu'on pourrait les conduire dans les trèfles. Les vaches, elles, n'étaient guère menées en pâture qu'après la moisson. Cette bosse, si sèche, dépourvue d'herbage naturel, donnait de bonnes viandes cependant. Et c'était routine et paresse si l'élevage du bœuf s'y trouvait inconnu. Mais chaque ferme n'engraissait que 5 ou 6 porcs pour sa consommation. De sa main brûlante, Ourdequin flattait les brebis qui étaient accourues, la tête levée, avec leurs yeux doux et clairs, tandis que le flot des agneaux, enfermé plus loin, se pressait en bêlant contre les claies. « Et alors, père Soulas, vous n'avez rien vu ce matin ?» redemanda-t-il en le regardant droit dans les yeux. Le vieux avait vu, mais à quoi bon parler ? Sa défunte, la garce et la soularde, lui avaient appris le vice des femmes et la bêtise des hommes. Peut-être bien que la cognette, même vendue, resterait la plus forte. Et alors, ce serait sur lui qu'on tomberait pour se débarrasser d'un témoin gênant. « Rien vu, rien vu du tout, » répéta-t-il, les yeux ternes, la face immobile. Lorsque Ourdequin retraversa la cour, il remarqua que Jacqueline y était demeurée, nerveuse, l'oreille tendue, avec la crainte de ce qui se disait dans la bergerie. Elle affectait de s'occuper de ses volailles, les 600 bêtes, poules, canards, pigeons, qui voletaient, cancanaient, grattaient la fosse à fumier au milieu d'un continuel vacarme. Et même le petit porcher ayant renversé un seau d'eau blanche qu'il portait au cochon, elle se détendit un peu les nerfs en le giflant. Mais un coup d'œil jeté sur le fermier la rassura. Il ne savait rien. Le vieux s'était mordu la langue. Son insolence en fut accrue. Aussi, au déjeuner de midi, se montra-t-elle d'une gaieté provocante. Les gros travaux n'étaient pas commencés, on ne faisait encore que 4 repas. L'émietté de lait à 7 heures, la rôtie à midi, le pain et le fromage à 4 heures, la soupe et le lard à 8. On mangeait dans la cuisine, une vaste pièce où s'allongeait une table, flanquée de 2 bancs. Le progrès n'y était représenté que par un fourneau de fonte qui occupait un coin de l'âtre immense. Au fond s'ouvrait la bouche noire du four, et les casseroles luisaient. D'antiques ustensiles s'alignaient en bon ordre le long des murs enfumés. Comme la servante, une grosse fille laide, avait cuit le matin, une bonne odeur de pain chaud montait de la huche, laissée ouverte. « Alors, vous avez l'estomac bouché aujourd'hui ?» demanda hardiment Jacqueline à Ourdequin, qui rentrait le dernier. Depuis la mort de sa femme et de sa fille, pour ne pas manger tout seul, il s'asseyait à la table de ses serviteurs, ainsi qu'au vieux temps. Et il se mettait à un bout, sur une chaise, tandis que la servante maîtresse faisait de même à l'autre bout. On était 14, la bonne servait. Quand le fermier se fut assis, sans répondre, la cognette parla de soigner la rôtie. C'était des tranches de pain grillées, cassées ensuite dans une soupière, puis arrosées de vin, qu'on sucrait avec de la ripopée, l'ancien mot qui désigne la mélasse en Beauce. Et elle en redemanda une cuillerée. Elle affectait de vouloir gâter les hommes. Elle lâchait des plaisanteries qui les faisaient éclater de gros rires. Chacune de ces phrases était à double entente. rappelait qu'elle partait le soir. On se prenait, on se quittait, et qui n'en aurait jamais plus regretterait de ne pas avoir trempé une dernière fois son doigt dans la sauce. Le berger mangeait de son air hébété, pendant que le maître, silencieux, semblait lui aussi ne pas comprendre. Jean, pour ne pas se trahir, était obligé de rire avec les autres, malgré son ennui, car il ne se trouvait guère honnête dans tout ça. Après le déjeuner, Ourdequin donna ses ordres pour l'après-midi. Il n'y avait dehors que quelques petits travaux à terminer. On roulait les avoines, on finissait le labour des jachères, en attendant de commencer la fauchaison des luzernes et des trèfles. Aussi garda-t-il deux hommes, Jean et un autre, qui nettoyèrent le fenil. Et lui-même, accablé maintenant, les oreilles bourdonnantes sous la réaction sanguine, très malheureux, se mit à tourner, sans savoir à quelle occupation tuer son chagrin. Les tondeurs s'étaient installés sous un des hangars, dans un angle de la cour. Il alla se planter devant eux, les regarda. Ils étaient cinq, des gaillards efflanqués et jaunes, accroupis, avec leurs grands ciseaux d'acier luisant. Le berger qui apportait les brebis, les quatre pieds liés, pareils à des outres, les rangeait sur la terre battue du hangar, où elles ne pouvaient plus que lever la tête en bêlant. Et lorsqu'un des tondeurs en saisissait une, elle se taisait, s'abandonnait, ballonnée par l'épaisseur de sa fourrure, que le suin et la poussière cuirassaient d'une croûte noire. Puis, sous la pointe rapide des ciseaux, la bête sortait de la toison comme une main nue d'un gant sombre, toute rose et fraîche, dans la neige dorée de la laine intérieure. Serrée entre les genoux d'un grand sec, une mère, posée sur le dos, les cuisses écartées, la tête relevée et droite, étalait son ventre, qui avait la blancheur cachée, la peau frissonnante d'une personne qu'on déshabille. Les tondeurs gagnaient 3 sous par bête, et un bon ouvrier pouvait en tondre 20 à la journée. Ourdequin, absorbé, songeait que la laine était tombée à 8 sous la livre, et il fallait se dépêcher de la vendre pour qu'elle ne s'échappât trop, ce qui lui enlevait de son poids. L'année précédente, le sang de rate avait décimé les troupeaux de la Beauce. Tout marchait de mal en pis. C'était la ruine, la faillite de la terre, depuis que la baisse des grains s'accentuait de mois en mois. Et, ressaisi par ses préoccupations d'agriculteur, étouffant dans la cour, il quitta la ferme. Il s'en alla donner un coup d'œil à ses champs. Toujours ses querelles avec la cognette finissaient ainsi. Après avoir tempêté et serré les poings, il cédait la place, oppressé d'une souffrance que soulageait seule la vue de son blé et de ses avoines, roulant leur verdure à l'infini. Ah, cette terre, comme il avait fini par l'aimer, et d'une passion où il n'entrait pas que l'âpre avarice du paysan, d'une passion sentimentale, intellectuelle presque, car il la sentait la mère commune qui lui avait donné sa vie, sa substance, et où il retournerait. D'abord, tout jeune, élevé en elle, sa haine du collège, son désir de brûler ses livres, n'était venu que de son habitude de la liberté, des belles galopades à travers les labours, des griseries de grand air aux quatre vents de la plaine. Plus tard, quand il avait succédé à son père, il l'avait aimé en amoureux. Son amour s'était mûri, comme s'il l'eût prise dès lors en légitime mariage, pour la féconder. Et cette tendresse ne faisait que grandir, à mesure qu'il lui donnait son temps, son argent, sa vie entière, ainsi qu'à une femme, bonne et fertile, dont il excusait les caprices, même les trahisons. Il s'emportait bien des fois lorsqu'elle se montrait mauvaise. Lorsque, trop sèche ou trop humide, elle mangeait les semences sans rendre des moissons. Puis il doutait, il en arrivait à s'accuser de mal, impuissant ou maladroit. La faute en devait être à lui s'il ne lui avait pas fait un enfant. C'était depuis cette époque que les nouvelles méthodes le hantaient, le lançaient dans les innovations, avec le regret d'avoir été un cancre au collège et de n'avoir pas suivi les cours d'une de ces écoles de culture, dont son père et lui se moquaient. Que de tentatives inutiles, d'expériences manquées. Et les machines que ses serviteurs détraquaient, et les engrais chimiques que fraudait le commerce. Il y avait englouti sa fortune. La borderie lui rapportait à peine de quoi manger du pain, en attendant que la crise agricole l'acheva. N'importe, il resterait le prisonnier de sa terre. Il y enterrerait ses os, après l'avoir gardée pour femme jusqu'au bout. Ce jour-là, dès qu'il fut dehors, il se rappela son fils, le capitaine. À eux deux, ils auraient fait de si bonnes besognes. Mais il écarta le souvenir de cet imbécile qui préférait traîner un sabre. Il n'avait plus d'enfant, il finirait solitaire. Puis l'idée lui vint de ses voisins, les coquards surtout, des propriétaires qui cultivaient eux-mêmes leur ferme de Saint-Just. Le père, la mère, trois fils et deux filles, et qui ne réussissaient guère mieux. À la chamade, Robiquet, le fermier, à bout de bail, ne fumait plus, laissait le bien se détruire. C'était ainsi. Il y avait du mal partout. Il fallait se tuer de travail et ne pas se plaindre. Peu à peu, d'ailleurs, une douceur berçante montait des grandes pièces vertes qui longeaient. De légères pluies, en avril, avaient donné une belle poussée au fourrage. Les trèfles incarnats le ravirent. Il oublia le reste. Maintenant, il coupait par les labours pour jeter un coup d'œil sur la besogne de ses deux charretiers. La terre collait à ses pieds, il la sentait grasse, fertile, comme si elle eût voulu le retenir d'une étreinte. Et elle le reprenait tout entier. Il retrouvait la virilité de ses 30 ans, la force et la joie. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qu'elle? Est-ce que ça comptait, les cognettes, celle-ci ou celle-là, l'assiette où l'on mange tous, dont il faut bien se contenter quand elle est suffisamment propre? Une excuse si concluante à son besoin lâche de cette gueuse acheva de l'égayer. Il marcha 3 heures. Il plaisanta avec une fille, justement la servante des coquards, qui revenait de Cloyes sur un âne en montrant ses jambes. Lorsque Hourdequin rentra à la borderie, il aperçut Jacqueline dans la cour, qui disait adieu au chat de la ferme. Il y en avait toujours une bande, 12, 15, 20, on ne savait pas au juste. Car les chattes faisaient leur portée dans des trous de paille inconnus et reparaissaient avec des queues de 5 ou 6 petits. Ensuite, elle s'approcha des niches d'Empereur et de Massacre, les deux chiens du berger. Mais ils grognèrent, ils l'exécraient. Le dîner, malgré les adieux aux bêtes, se passa comme tous les jours. Le maître mangeait, causait de son air habituel. Puis, la journée terminée, il ne fut question du départ de personne. Tous allèrent dormir, l'ombre enveloppa la ferme silencieuse. Et cette nuit même, Jacqueline coucha dans la chambre de feu Madame Hourdequin. C'était la belle chambre avec son grand lit, au fond de l'alcôve tendue de rouge. Il y avait là une armoire, un guéridon, un fauteuil Voltaire. Et, dominant un petit bureau d'acajou, les médailles obtenues par le fermier aux comices agricoles luisaient, encadrées et sous verre. Lorsque la cognette en chemise monta dans le lit conjugal, elle s'y étala, y écarta les bras et les cuisses pour le tenir tout entier, riant de son rire de tourterelle. Jean, le lendemain, comme elle lui sautait aux épaules, la repoussa. Du moment que ça devenait sérieux, ça n'était pas propre, décidément, et il ne voulait plus.